Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine, je vous en partage de nouvelles. Cet épisode est sponsorisé par Link & Co, la marque d'automobiles électriques qui mise sur l'autopartage pour la mobilité de demain. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alain Visser, le fondateur et CEO de Link & Co. Après plus de 35 ans à travailler au plus haut poste de l'industrie automobile, en passant notamment par Ford, Opel ou encore Volvo, son constat a été sans appel. Cette industrie ne change pas et n'innove pas ou très peu. Il quitte alors Volvo en 2015 pour fonder Link & Co. Aujourd'hui, 7 ans après, ils sont plus de 800 salariés à y travailler. Pourtant, rien ne destinait ce Belge rentré par hasard dans l'industrie automobile à une telle carrière. Peu importe votre avis sur la mobilité de demain, et Dieu sait que j'ai moi-même de nombreux points de friction, vous allez découvrir l'histoire d'un homme qui a dédié sa vie à l'automobile et qui a une vision des mutations qui vont s'opérer sur ce marché qui est très très intéressante. Pour plus de contenu exclusif sur les coulisses du podcast, suivez-nous sur Instagram, @dansLaBoîteAGants. Cet épisode est aussi à retrouver en version filmée sur YouTube, alors foncez vous abonner à la chaîne YouTube Dans la Boîte à Gants et sur votre plateforme de podcast favorite. Avant de débuter l'épisode, j'ai un petit service à vous demander. Vous pouvez laisser un commentaire sur Apple Podcast ou un avis sur Spotify. Cela permet au podcast de gagner en visibilité et donc par conséquent de pouvoir convaincre des invités toujours plus incroyables de venir dans la boîte à gants. Je vous souhaite un bon épisode. Bonjour Alain.
Bonjour.
Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants. On se retrouve ici. Bon, à la base, on aurait bien aimé se retrouver dans le club Link & Co.
Oui.
Mais il n'est pas encore prêt.
Il n'est pas encore prêt, non.
Donc là, on a trouvé une petite solution de repli. Donc on est chez WeWork. Enfin, c'est le truc un peu connu pour les salles partagées. Tu es un peu en voyage à Paris, en tout cas Paris et je crois Angleterre après, c'est ça?
Effectivement, oui.
Donc on a profité de ton passage pour se voir. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots? Parce que tu sais, les gens ont aussi la version audio, c'est filmé, mais c'est aussi une version audio.
D'accord, oui, avec
plaisir. Qu'ils comprennent un peu en deux mots, ton parcours.
D'accord, ben, je m'appelle Alain Visser, je suis belge, comme vous pouvez entendre. Je suis le CEO de Link & Co. Ça fait 7 ans que je travaille sur ce projet, mais nous sommes live depuis 2 années. J'ai travaillé dans l'automobile depuis 36 années, chez Opel, chez Ford, chez Volvo, et je me suis rendu compte que rien ne se passe dans l'automobile, qu'on fait la même chose depuis des dizaines d'années, et qu'on avait besoin de faire quelque chose différemment, un peu plus raisonnable, un peu plus amusant, un peu plus durable aussi, et j'ai commencé le projet Link & Co. en 2015, en quittant Volvo et de le faire comme un, je dirais presque comme un start-up. J'étais seul en 2015, maintenant nous sommes à peu près 800 employés sur 7 pays, et donc c'est un projet qui m'est très profond au cœur, qui est personnel. C'est la première fois que je fais quelque chose qui est, je dirais, mon truc, une passion vraiment qu'un job. Et ça fait plaisir, oui. Mais quand on voit les résultats jusqu'à présent, je suis très content, oui.
Et justement, si on fait un petit retour en arrière.
Oui.
Comment t'es arrivé dans l'automobile? Parce que je crois que plus jeune, tu t'intéressais à l'automobile, mais pas plus que ça.
Non, et je n'étais pas vraiment un grand auto-freak. Je suis arrivé dans l'automobile complètement par hasard. J'ai reçu un coup de fil quand j'ai fini mes études, qui étaient des études en langue. Je suis traducteur d'éducation. J'ai reçu un coup de téléphone. C'était en 1986. Je suis presque aussi vieux que je ressemble. Et à vrai dire, je ne voulais pas ce job-là parce que je voulais faire encore des vacances et faire des trips, des voyages. C'était un lundi. Ils m'ont appelé le lundi soir. Ils m'ont dit que je pouvais commencer le mercredi, et j'étais vraiment déçu. Et c'était le premier job, c'était vraiment comme stagiaire chez Ford Belgique. En fait, mon patron de ce temps-là est toujours un très bon ami, mais c'est là que ça a commencé complètement par hasard, et je n'avais pas du tout les ambitions de devenir un directeur, vice-président, CEO, non, pas du tout.
Tu dirais que c'était quoi ton rapport à l'automobile plus jeune, puisque tu peux pas dire que tu étais passionné? C'était quoi? C'était pour toi, c'était le voyage?
C'était le voyage. J'aimais beaucoup les voitures. J'aimais beaucoup, mais c'était pas vraiment le rêve d'entrer dans l'automobile. Je suis comme tous les garçons. Je jouais avec les Matchbox de toutes les marques. Je connaissais toutes les marques. J'aimais beaucoup. Mais c'était pas vraiment le rêve. Je veux entrer dans l'automobile. C'est vraiment arrivé par hasard, oui.
Et donc là, quand tu rentres chez Ford.
Oui.
Tu m'as confié que ta première voiture, c'est quand même une voiture d'extrême passionné.
Oui, oui, c'était un Ford Escort Cabriolet XR3i qui est noir, qui était quand même une voiture très explosive pour ces temps-là. J'étais très content. C'était une voiture d'occasion, un ex-service comme on l'appelle. J'étais très content. C'était ma première voiture, et je crois en fait que c'était la seule voiture que j'ai jamais possédée. Ouais.
C'est rigolo. Et donc, tu commences chez Ford,
oui,
un peu par hasard.
Oui.
Pas d'ambition particulière, parce que comme tu le disais, tu n'étais pas en train de te dire « j'ai envie de devenir président, directeur général, etc. »
Pas du tout.
Comment ça a évolué, ce parcours ?
En dehors de Ford Belgique, j'ai fait quelques changements. Et après 4 ans, je me souviens, le PDG de Ford Belgique, qui est un Allemand, m'a proposé d'aller en Angleterre, de faire un job comme ex-service, expat, en Angleterre pour 12 mois. Et pour moi, c'était la surprise totale. Il m'a dit, tu as la possibilité d'avoir une très bonne carrière. Pour moi, à ce moment-là, le rêve, c'était directeur marketing de Ford Belgique. Pour moi, c'était un dieu en ce temps-là. Je me souviens, j'ai parlé avec mes parents qui étaient vraiment bouleversés que leur fils allait à Londres pour 12 mois. Ça fait, je crois, 30 ans, et je ne suis jamais revenu en Belgique. Donc, les 12 mois sont devenus 30 ans. Et tout à coup, on est dans un processus qui n'arrête pas. J'ai fait la carrière en Belgique, en dehors de Ford, et puis passé chez General Motors. Mais c'est là que ça a commencé, et c'était complètement imprévu et pas vraiment avec une volonté que je voulais faire de la carrière. Après, évidemment, on devient plus ambitieux, mais au début, c'était pas là du tout, non.
Ouais, l'appétit est venu en mangeant, quoi. C'est-à-dire
oui,
que plus t'avançais, plus t'avais des opportunités, plus tu, à
oui,
force
c'est
de
ça.
Les saisir.
Oui.
Tu t'es dit, je peux aller plus haut, je peux aller plus haut, je peux aller plus haut, quoi.
Oui, et je voulais toujours, je crois que le fil rouge a toujours été que j'étais un peu, j'aimais cette industrie, mais j'étais toujours un peu surpris qu'il n'y a pas beaucoup qui se passe. On fait toujours la même chose, c'est très stable. C'est une industrie qui en dehors est très spectaculaire quand on va à des fêtes d'anniversaire et tu dis, je travaille dans l'automobile, bam, tout le monde parle de l'automobile. Mais en fait, c'est toujours la même chose, et ça, je crois que mon fil rouge, c'était toujours en dehors de ce que je faisais, de ce que je faisais, de changer un petit peu, de faire un peu de surprise, de choquer un petit peu. Et là, je crois que ce que je fais maintenant, c'est vraiment le total, quoi, de vraiment changer cette industrie qui a quand même toujours été mon rêve, oui.
Donc, après l'Angleterre,
oui,
tu pars en Allemagne, c'est ça?
Oui, après l'Angleterre, non, je suis allé à Zurich, en Suisse. J'étais devenu le directeur marketing de Ford Suisse. J'habitais à Zurich. C'est là où mon premier fils est né en 95. J'ai passé 4 ans à Zurich, puis je suis passé à Berlin pendant 2 ans. Et de Berlin, je suis repassé à Londres. Et après, je suis devenu le PDG de Ford Benelux, où j'habitais à Amsterdam. Ouais, ouais. Donc, et de là, je suis passé de, j'ai quitté Ford. Je me souviens, il y avait un chasseur de tête qui m'a toujours dit, si tu travailles pendant toute la vie dans une boîte, c'est pas bon. Et si tu as plus de 45 ans, tu ne vas jamais changer. Et tout à coup, un peu par hasard, j'avais l'offre de devenir le vice-président marketing de Opel en Allemagne. Et j'ai accepté, donc je suis parti de Ford. J'étais en Angleterre et je suis parti en Allemagne, où j'étais resté pendant 9 ans comme d'abord vice-président marketing de Opel, et puis vice-président marketing vente et service pour Opel, dans une période qui était quand même très difficile, où Opel était en vente, où j'ai appris beaucoup de choses. Et après là, je suis parti en Suède, et je suis passé chez Volvo.
Mais t'as quand même pas mal voyagé.
Oui, mais j'ai beaucoup voyagé. Mes fils n'ont jamais habité en Belgique. Le premier est né à Zurich, le deuxième à Londres. Donc c'était vraiment très international. J'ai beaucoup aimé, et s'il y a une chose que je ne regrette pas du tout, c'est vraiment ce changement de pays, des cultures différentes, différents amis, différentes ambiances. J'aime beaucoup voyager, et là on a déménagé beaucoup, donc il faut être flexible.
T'es un nomade un peu, quoi.
Oui, un peu.
Et à travers toutes ces expériences, tu faisais toujours le même constat de te dire que finalement, de l'intérieur, tout était un peu tout le temps la même chose.
Oui, et je crois que cette industrie qui est extrêmement spectaculaire de l'extérieur, on parle beaucoup de l'automobile, et c'est vrai que les voitures changent, mais on pourrait même dire qu'un portable a changé plus en 10 ans qu'une voiture en 50 ans. On parle beaucoup de l'innovation, mais moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation. Le business model est exactement le même. On fait l'engineering, le design des voitures, on les fabrique dans nos grandes usines, on les envoie aux concessionnaires qui les vendent et font le service. Et c'est le même modèle. Et quand je vois ce qui se passe au monde, il y a des nouvelles tendances qui sont spectaculaires, qui sont formidables. Et qu'est-ce que l'automobile fait? Rien du tout. Pourquoi? Parce que ça fonctionne. C'est profitable. Donc, on pourrait dire pourquoi? Pourquoi changer si ça fonctionne? Et c'est vrai. Mais moi, j'ai toujours eu l'ambition de faire quelque chose de différemment, de coupler un peu cette industrie avec ce qui se passe vraiment au monde. Et c'est ce que nous essayons de faire maintenant. En plus, je trouve quand même qu'il y a une hypocrisie que tout à coup, cette industrie dit qu'elle est durable. Mais la seule chose qui est devenue durable, c'est la voiture électrique. Et soyons honnêtes, sans Tesla, Elon Musk, nous fabriquerions toujours des voitures avec des moteurs à combustion. Donc, je crois qu'il y a une hypocrisie. Et si l'objectif de cette industrie, c'est de vendre le plus de voitures possible, ça, ce n'est pas durable. Surtout quand on sait qu'une voiture moyenne est utilisée pour 5% du temps. La voiture est garée pendant 95% du temps. C'est aberrant, quoi. Donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il y a un moment clé dans ma vie et ma carrière. Je crois qu'il y a 7 ans, mes deux fils ont été en train de dîner. Je crois que c'était à Londres. Ils m'ont dit, mais papa, qu'est-ce que tu as fait pendant toute la vie? Et je me suis demandé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, j'ai vendu des voitures. Et ça m'a pas donné un sentiment très chaleureux. Et je me suis dit, il faut que je change, que je fasse quelque chose de complètement différent. Et puis, par hasard, en 2015, quand j'étais responsable de marketing et vente chez Volvo, ils m'ont donné l'occasion de faire le start-up d'une nouvelle marque. Et là, c'était pour moi l'occasion de réaliser mon rêve, de vraiment changer cette industrie. Donc, je suis allé en Chine pour vendre l'idée. Au début, ils m'ont regardé comme si j'avais fumé la mauvaise substance, mais j'avais abandonné. J'étais très content qu'ils aient, à la fin du jour, ils ont accepté le concept. Et j'ai commencé le 1er octobre. J'ai abandonné le job de Volvo. J'avais à peu près 4000 employés, et je suis commencé tout seul, sans bureau, sans employés.
Comment tu l'as vécu, cette transition? Parce que toi qui es habitué quand même à très tôt dans ta carrière manager des gens.
Oui.
Tu te trouves.
C'était très dur, oui. Et c'était très dur. Et je dois dire, cette journée, je ne l'oublierai jamais. J'étais très content de pouvoir faire finalement ce que je voulais faire. Mais c'était aussi un choc que je ne pouvais pas dire, toi, tu peux faire ça, tu peux faire une réunion, tu peux organiser ça. J'étais tout seul. Je suis allé dans un magasin de meubles, j'ai acheté des tables et des chaises, j'ai loué une espace pour une vingtaine d'employés, et j'ai embauché quatre personnes, et on était 5 après un mois. Mais c'était quand même, là, c'est la première fois dans ma carrière où je me suis dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait là?
T'as eu un moment de doute?
Oui, quand même. Là, cette première journée, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est vraiment un risque énorme. Mais là, maintenant, 6 ans plus tard, nous sommes à peu près 800, 900 employés, sur 7 pays. Donc ça, pour moi, ça a donné une satisfaction que j'ai jamais eue dans ma carrière. J'essaie de créer une culture aussi. Je me suis aperçu après tant d'années que ma qualité de vie dépend d'un trop grand pourcentage de la qualité de mon patron. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une ambiance, une culture qui est positive, où les gens ose prendre des risques, où il y a une diversité totale. Maintenant, à peu près, je crois que nous avons plus de 50 nationalités. Il y a 50% de femmes dans une industrie.
Très, très rare dans l'industrie.
Qui est très, très rare dans l'automobile. 80% de mes employés n'ont jamais travaillé dans l'automobile. Donc, c'est vraiment, faire l'importation de l'innovation de venant des autres marques, mais surtout des autres industries. Ce qui, pour moi, a été une des leçons que j'ai appris qu'il faut vraiment trouver des gens qui viennent des autres industries, qui pensent différemment. Et même pour moi, ça a été un choc parce que parfois, comme moi, je pensais que j'étais révolutionnaire. Pour eux, je ne l'étais pas du tout. Donc, c'est bien d'être, de recevoir le challenge soi-même, quoi.
Est-ce que tu dirais justement, pour contraster par rapport à cette industrie qui n'a pas trop bougé, automobile, que c'est justement dû au fait, si on caricature, que c'est dirigé par des financiers, des ingénieurs, et que c'est toujours un peu les mêmes profils?
Oui, c'est pour moi. Et regardez, je critique un peu, c'est un peu notre rôle d'être le disruptif dans l'industrie. Et je ne veux pas peut-être critiquer, mais oui, moi je crois que si on me demande c'est pourquoi que cette industrie ne change pas, ben c'est pour deux raisons. C'est un, ça fonctionne. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? L'automobile est profitable. Et deux, c'est géré par des ingénieurs ou des financiers. Il n'y a pas beaucoup de visionnaires dans cette industrie. Je crois qu'il n'y a qu'un seul, et c'est Elon Musk, qui change un peu surtout le produit, je crois. Je crois qu'il n'a pas changé l'industrie elle-même, mais le produit. Mais en général, tous les CEO quand je vois, ce sont des hommes ou des femmes super capables, mais plutôt des experts en ingénierie ou des experts financiers. Je ne vois pas beaucoup de visionnaires.
Et justement, tu parles du rapport entre le produit et l'industrie.
Oui.
Toi, ta vision, c'est plutôt de pas t'intéresser au produit, parce que ça serait mentir, mais de plus t'intéresser justement à tout ce qui est à côté du produit.
Oui, exactement. Et moi, ça fait des dizaines d'années que je participe à des essais. Et là, nous sommes dans un parcours, dans un circuit même, où nous essayons de différentes voitures, et après nous avons des réunions avec nos ingénieurs, et nous essayons toutes les voitures, toutes marques. Et même les ingénieurs les plus spécialisés ne sont pas d'accord sur quelle voiture est la meilleure. Alors moi, je me dis, si même eux ne sont pas d'accord, comment est-ce qu'un client peut sentir la différence entre une très bonne voiture et une bonne voiture, et à un niveau où un client moyen ne l'aperçoit plus. Quand moi j'ai commencé, il y avait de bonnes voitures et de moins bonnes voitures. Maintenant, toutes les voitures sont bonnes.
Bien sûr.
Elles sont toutes bonnes et elles sont différentes, le design est différent. Mais toutes les voitures sont bonnes. Donc je me suis dit, il faut évidemment une très bonne voiture. Notre 01 est une très bonne voiture. Mais la différence doit être en dehors de la voiture. Donc je me suis dit à mon équipe aussi, ne parlons pas de la voiture. Laissons les journalistes parler de la voiture, parce que c'est plus crédible si eux le disent que nous autres, nous disons tous que nous avons la meilleure voiture. Donc laissons les journalistes parler de la voiture, et entre-temps, nous pouvons parler de ce qui fait Link & Co, c'est le business model qui est complètement nouveau. Nous ne vendons pas des voitures, nous vendons une expérience de mobilité, et c'est ça notre concept. Donc ça nous gagne du temps de parler sur ce que nous sommes au lieu de quel est le produit autour duquel nous faisons ce que nous sommes, quoi.
Et justement, ce concept, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, que 95% du temps une voiture reste stationnée, quelle solution vous avez trouvé tous dans ton équipe pour justement pallier ce problème?
Oui, donc nous nous sommes dit, vendre des voitures, ça peut pas être la solution, même si cette voiture est devenue plus durable, étant donné l'électricité. Nous nous sommes dit, il faut moins de voitures, mais qui soient plus utilisées. Donc notre concept, c'est acheter une voiture ou utiliser une voiture lorsque vous en avez besoin. Donc le contrat est mensuel. Et mensuel, pas comme le leasing, mais mensuel, ce qui veut dire que tu peux arrêter le contrat à chaque mois. Donc chaque mois. Donc
Il
n'y a pas d'engagement, ce qui aussi dans les temps actuels est très important. Les gens ont un peu peur de l'avenir. Les prix d'énergie sont très hauts. Qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois, 4 mois? Non, on ne sait jamais. Dans notre cas, il n'y a pas de risque. Tu peux arrêter à n'importe quel instant. Donc, tu paies 550 euros. Tout est inclus, l'assurance, le service, tout est inclus. Mais en plus, tu peux partager cette voiture. C'est inclus dans l'app ou dans l'infrastructure software de la voiture. Et plus que tu partages la voiture, moins que tu dépenses d'argent. Donc, le 550 euros diminue jusqu'à zéro. Nous avons même des clients qui font un profit maintenant sur notre contrat mensuel.
Il faut combien de personnes, par exemple, pour justement arriver à l'équilibre?
Ça dépend évidemment combien les prix de partage sont différents à Paris qu'à Munich, par exemple. Mais si tu demandes 50 euros par jour, il faut 10 jours et déjà les coûts sont éliminés, quoi. Donc, nous avons maintenant quelques clients qui gagnent 900 euros par mois et ils paient 550, donc ils font du profit. Ce sont des exceptions, mais c'est possible. Et nous nous sommes dit, si tu partages cette voiture, tu as un incentive financier d'utiliser la voiture plus et de contribuer à une stratégie qui est plus durable, parce que pour nous, la durabilité va en dehors de la voiture, c'est plus que la voiture. La technologie de la voiture, c'est l'utilisation de la voiture. Et en plus, donc, nous avons dans notre concept, moi, je suis fasciné par la tendance globale où les gens maintenant dépensent plus d'argent pour faire des choses plutôt que pour acheter des choses. La possession est devenue moins importante que l'expérience. Donc, nous nous sommes dit, et avec tout respect que j'ai pour le concessionnaire, je me suis dit qu'après 36 ans dans l'automobile, j'ai pas encore vu la famille qui se lève le samedi matin, dit à ses enfants, nous avons de très bonnes nouvelles, nous allons chez notre concessionnaire, ça ne va jamais arriver. Donc, je me suis dit, il faut, au lieu d'avoir des concessionnaires, des concepts qui sont plus agréables, qui sont vraiment des expériences. Et nous avons lancé No Club. Nous venons d'ouvrir le 10e. Malheureusement, pas encore en France, parce que ça a été tellement difficile de trouver le bon endroit à Paris. Mais donc, le début de la deuxième trimestre de l'année prochaine, nous avons...
Vous l'avez trouvé là, ça y est.
Nous avons finalement trouvé à Paris, oui, ce qui est quand même... C'était un cauchemar de le trouver ici. Et à Paris, nous ne voulions pas prendre de risques. Il faut que ce soit parfait. Et nous allons l'ouvrir lors du deuxième trimestre de 23, oui.
Linkenco, donc au début, c'était toi tout seul.
Oui.
Maintenant, vous êtes 900.
Oui.
Comment ça a évolué et comment tu vois l'évolution encore sur 5-10 ans? C'est quoi le plan pour toi? C'est devenir le Netflix de l'automobile?
Oui, nous faisons toujours la comparaison. Et moi, je l'aime bien personnellement parce que un des désavantages que nous avons, c'est la, je dirais presque la complexité de l'histoire. Si tu es Tesla, c'est la première voiture électrique. Bang, c'est l'histoire. Si tu es Linkenco, c'est vrai, nous avons une voiture, mais il faut pas l'acheter. Il faut la vivre mensuellement, mais tu peux la partager. Et il y a des expériences, il y a une communauté. Donc, c'est une histoire de quelques minutes. Donc, moi, j'aime bien ce concept de Netflix en automobile parce qu'il s'agit d'une expérience. Mais Netflix a aussi ses propres séries et films. Nous avons notre propre produit. Donc, il y a la comparaison est quand même assez acceptable, je dirais. Mais moi, j'espère qu'à long terme, nous serons vus comme vraiment l'alternative d'acheter une voiture. Et pour moi, c'est pas, j'ai pas l'arrogance de dire eux, ils sont tous faux et nous sommes corrects, mais j'ai la confiance de dire il y a assez de gens qui sont ouverts à quelque chose donc complètement différent d'acheter une voiture. Et nous le constatons et donc nous faisons tout un peu différemment. Moi, j'ai toujours été, par exemple, surpris du fait que c'est tellement complexe la voiture. Il y a 15 couleurs, il y a 5 dimensions de jantes, de roues, il y a le cuir, pas de cuir, il y a des centaines d'options, c'est tellement compliqué. Alors nous nous sommes dit, nous autres, nous n'avons pas d'options, tout est inclus, donc il n'y a pas de choix à faire, nous avons seulement le bleu et le noir. Donc notre choix sur notre configurateur sur l'Internet, c'est le choix noir et bleu, c'est tout. Donc c'est tout simple. Et quand je me souviens quand j'ai décidé ça, même mes collègues m'ont dit t'es fou, c'est aberrant, tu ne peux pas faire ça. Et s'il y a quelqu'un qui veut une voiture blanche ou rouge, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai bad luck, nous ne l'avons pas. Et je dois dire, nous n'avons eu aucune réclamation. Et peut-être ces gens sont allés dans d'autres marques. C'est ok. J'ai fait toute ma carrière la stratégie qu'il faut plaire à tout le monde. Maintenant, nous nous sommes dit, voilà, nous avons une certaine attitude, nous avons un certain point de vue, nous avons fait des choix, et les gens qui n'aiment pas ces choix-là, c'est ok, il y a des différentes marques. Nous sommes là pour une minorité, mais cette minorité est quand même assez grande en Europe. Oui.
Ouais, c'est évolué. Il suffit de voir dans les rues de Paris le nombre de Link & Co qu'on voit. Il y en a quand même beaucoup. C'est de plus en plus, quoi, en fait.
Oui, c'est motivant. Il y a 6 ans, c'était un rêve, c'était une vision. Maintenant, quand je voyage et je vois nos voitures, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien.
Et toi, personnellement, le fait de passer de poste très élevé à entrepreneur, parce que finalement t'es un entrepreneur maintenant,
ouais,
avec la chance d'avoir l'appui d'une,
oui,
marque, ouais, financière, donc c'est aussi une sécurité d'une certaine manière.
Exactement, ouais.
Comment t'as vécu cette transition de dire ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est ton projet, c'est
ouais,
plus, tu travailles plus pour le projet de quelqu'un d'autre.
Oui, c'est complètement différent. Donc j'ai toujours adoré ce que je faisais. Je suis un optimiste, je crois, de nature, donc j'ai toujours aimé ce que je faisais. Mais maintenant, c'est complètement différent. C'est une ambition personnelle, c'est une mission personnelle, et on embauche des gens qui font partie de ce rêve, qui veulent vraiment faire la révolution. Donc c'est complètement différent. À moi, ça me plaît beaucoup. La pression est beaucoup plus haute. La pression est différente. C'est beaucoup plus difficile, mais c'est beaucoup plus, comment dirais-je, c'est beaucoup plus amusant, c'est beaucoup plus positif d'avoir après les résultats, parce que c'est vraiment ton propre histoire.
Gratifiant, oui.
C'est gratifiant, c'est ça le mot que je cherchais, oui, voilà. C'est beaucoup plus gratifiant, oui.
Tu sais que ce podcast, c'est aussi un podcast où la plupart, enfin pas la plupart, mais certes, beaucoup des auditeurs sont des passionnés d'automobile. Donc
oui,
quand tu as dû parler d'escorte XR3, ils devaient être comme des fous. Comment tu vois un petit peu, toi, l'évolution du marché automobile? Parce que on sait que, donc, l'électrique va prendre le pas.
Oui.
Mais je crois que tu me disais que pour toi, la vraie révolution, c'est pas forcément ça, parce que ça, c'est une évidence.
Oui. Oui, regardez, nous ne parlons pas de la voiture, mais la voiture, évidemment, elle est super importante. Si la voiture n'était pas superbe, tout ce que nous faisions, ce serait que du marketing, comme les Américains le disent, lipstick on a pig. Non, sinon, ce n'est qu'une histoire. Mais pour moi, la voiture est très importante. Je crois qu'en effet, comme tu le dis, l'électrification est très importante pour le produit, mais ben pas pour l'industrie. Ce n'est qu'un autre moteur en dessous du châssis, quoi. Ça ne change pas l'industrie, ça change le produit. Et tout le monde qui conduit une voiture électrique ne va plus changer à une voiture à un moteur de combustion. C'est évident. Et les gens qui doutent que tout va être électrique sont très naïfs. Ça va certainement se passer. Je n'ai pas de doute. Je n'ai aucun doute. Mais je crois qu'en effet que la grande révolution va être la voiture autonome. Et là, je crois que la technologie n'est pas le problème. C'est surtout l'assurance, l'infrastructure,
la législation.
La législation. C'est ça le plus compliqué. Mais ça va, pour moi, ça va arriver. Et mon point de vue, ça c'est personnel. Je crois que moi, j'ai toujours dit que l'automobile, pour ceux qui sont vraiment la passion, qui écoutent ce podcast, moi, j'ai dit depuis des années que l'industrie automobile doit faire le choix. Est-ce que tu veux être Air France ou est-ce que tu veux être Boeing? Et je suis assez surpris que, selon moi, tous ont décidé d'être Boeing. Tandis que pour moi, l'avenir va être pour Air France, et c'est comme exemple, je vais pas faire la publicité pour Air France. Déjà maintenant, tu ne vas pas à Paris avec un Boeing, tu vas à Paris avec un Air France. Mais déjà maintenant, tu vas pas au centre-ville avec une marque d'automobile, mais avec Uber. Donc les marques de service deviennent plus importantes que les marques de produits. C'est un peu en ligne avec ce que je disais avant, l'expérience est plus importante que le produit. Et je crois que l'avenir va avoir plus dans cette direction. Je crois que les gens vont acheter de moins en moins de voitures. Soyons honnêtes, avoir une voiture au centre-ville, ça n'a pas de sens. C'est pas le moyen de conduite ou de transportation idéal en centre-ville. Donc les gens, ils vont avoir un app. Et lorsque le voiture autonome va vraiment être institutionnalisée dans ici entre 20 et 40 ans, les gens vont avoir un app et ils auront la voiture lorsqu'ils la veulent. Avec l'app, c'est comme un Uber mais sans chauffeur, ce qui veut dire tu ne dois pas trouver du parking, tu ne dois pas payer le service et tu peux faire le drink and drive. Donc c'est le meilleur des mondes. Et là, il y aura, pour moi, un petit pourcentage des gens qui vont acheter des voitures de luxe, Porsche, Ferrari, Lamborghini, etc. Et moi, je compare toujours comme les montres, les montres de luxe. Depuis une dizaine d'années, le vente montre de luxe est à un niveau extrêmement haut, malgré le fait que personne n'a besoin d'une montre parce qu'elle a le temps en millisecondes sur ton portable. Mais c'est un status symbol, ça, et je crois que ça va être la même chose en automobile. Et je crois que ça va être cool dans 20-30 années d'avoir une Porsche avec un V8, un V12 et de chercher une essence à une station d'essence. Ça va être cool d'avoir le bruit de la voiture de V8 et de voir de chercher de l'essence. Donc, je crois que ça va exister. Certainement aussi des produits Porsche, etc. électriques, mais je crois que ça va être cool d'avoir, comme maintenant les montres automatiques qui, la mienne qui était des années 50, qui va faut de 2-3 minutes par jour. Ça va être la même chose avec les voiture, mais je crois que la majorité des gens vont avoir un app et utilisent une voiture au lieu d'acheter voiture. Et l'exception va être les gens qui vivent en campagne et qui vivent en dehors des grandes villes où le support de cette app va peut-être n'est pas encore au niveau où ils le veulent, quoi. Pour moi, ça, c'est l'avenir. Je m'aperçois que c'est une idée qui ne peut être pas plaît à tous ces gens qui sont les car freaks qui écoutent ce podcast.
Quand tu dis ça, j'ai cette réflexion-là parce que je fais partie de ces car freaks, mais il faut avoir une ouverture d'esprit, tu vois, par rapport à effectivement ce qui va se passer. Ouais. Et non, tout ce que tu me dis, ça me fait réfléchir. En fait, ça m'étonne quand tu dis que pour toi, en 2030, par exemple, ou en 2040,
oui,
il y aura encore ces marques d'exception qui auront encore des moteurs thermiques.
Oui, je crois que ça va être cool d'avoir un moteur d'essence en 2040. C'est comme les montres.
Je pense que le parallèle, il est très très bon parce que effectivement, c'est un marché qui a complètement explosé.
Oui, je crois que ça va être cool et c'est un peu comme maintenant les old timers. Là, ce sera différent et là, ça ne veut pas dire que j'ai un problème avec les voitures maintenant. Je crois que c'est le monde va évoluer. Il faut quand même s'imaginer que quand on regarde comme une ville est maintenant, je savais maintenant 2 jours que je passe à Paris. C'est horrible, le trafic à Paris, c'est horrible. Et quand on s'imagine s'il y a moins de voitures, les voitures ne sont utilisées que lorsqu'ils sont nécessaires, quand on en a besoin. 30% du trafic en ville en Europe sont des gens qui cherchent du parking. C'est fou.
30%
du trafic en Europe, oui. En centre-ville des grandes villes, Paris, Munich, Berlin. C'est fou. Donc, si on élimine ces 30%, les villes vont être plus jolies, les villes vont être plus agréables. Donc, je crois que ça va contribuer à une qualité de vie. Donc, je crois que l'industrie va être dans cette direction-là. Et moi, comme je disais, je suis un peu surpris que l'industrie automobile continue à se concentrer à améliorer les produits au lieu d'offrir un service de mobilité. Et moi, j'ai toujours dit, Link & Co, nous voulons être une boîte, une marque de service avec un produit, au lieu d'une marque de produit avec un service. Et c'est une chose complètement différente. Oui.
Donc concrètement, Link & Co, je peux l'utiliser en ville, mais je pourrais l'utiliser aussi sur des longs trajets.
Absolument, oui. Et nous espérons que, je crois que ce que nous offrons maintenant, pour moi, est une phase intermédiaire à ce processus que je viens d'expliquer, qui selon moi va déclencher dès qu'on aura la voiture autonome qui, selon moi, va encore durer 20-30 années, pas à cause de la technologie, mais à cause de la législation, etc. Ouais.
Tu parlais tout à l'heure de tes enfants.
Oui.
Qui t'ont demandé et qui t'ont fait ce déclic.
Oui.
Qu'est-ce que tu fais, papa? Et tu leur as dit, je vends des voitures.
Oui.
eux, ils ont a priori pas une vision forcément, ils s'intéressent pas forcément à ce marché automobile.
Ouais.
Comment ils voient, de quel œil ils voient maintenant Lynk & Co?
Ah, c'est une bonne question. Bah, tout d'abord, les deux, ils n'ont pas de permis de conduire.
D'accord.
Je crois que c'est plutôt une réaction contre leur père que n'importe quel autre argument. Mais ce qui est, pour moi est très motivant, c'est que mon fils le plus jeune, qui a 23 ans, toujours quand il y a l'ouverture d'un nouveau club, il veut y aller, il trouve que c'est tellement cool. Et de faire quelque chose, finalement, que mes fils trouvent cool, pour moi, c'est une très grande motivation. Ouais.
C'est quoi l'expérience que tu peux vivre dans un club, justement?
Oui, et il faut vraiment voir les photos, vraiment y aller, parce que c'est tellement différent. Nous voulons, je dirais, presque un peu choquer dans les clubs. Le design, il est très différent. Nous le considérons comme un... Il y a beaucoup de gens qui entrent et qui se disent, c'est quoi? C'est un concept store? Puis ils disent, ah non, c'est un bar. Et puis tout à coup, ils disent, ah mais il y a une voiture. Il y a toujours une seule voiture. Et c'est là où je crois que les gens entrent et qu'ils découvrent. Nous vendons des produits qui sont toujours durables, toujours avec une belle histoire, avec des petites marques qui n'ont pas vraiment le budget d'avoir leur propre magasin, mais que nous essayons d'appuyer, de soutenir avec nos clubs. Donc c'est vraiment un endroit d'expérience. Je ne le considère pas comme nos points de distribution, mais plutôt comme d'investissement, de marketing. Je suis convaincu qu'on peut lancer un business online, mais pas créer une marque online. Et pour moi, les clubs sont l'évidence physique de ce que représente la marque. Ouais.
C'est l'ancrage, en fait, pour créer la marque.
Exactement.
D'accord.
Ouais, ouais.
Lynk & Co, dans 20, 30 ans, enfin, c'est quoi un peu le summum de ta vision?
Le summum, c'est vraiment d'être une marque service qui offre une mobilité, une expérience de mobilité qui va, j'espère, évoluer tout le temps, mais qui aura toujours une connotation positive. Avec une expérience positive. Pour moi, c'est une boîte, c'est une marque d'expérience à base de produits qui maintenant est une seule voiture, mais qui peut évoluer à beaucoup plus d'autres choses. Ouais.
T'as des idées déjà pour le futur?
Oui, absolument.
Et tu peux en parler pour tout de suite, c'est ça?
Pas encore.
Alain, pour finir un peu ce podcast, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, que ça soit professionnellement, personnellement, enfin sur tous les aspects?
Ben moi j'espère que ça va fonctionner comme je dis, c'est pas de détruire ce qu'il y a maintenant, c'est d'offrir un alternatif. J'espère que ça va continuer, j'espère que les gens vont comprendre ce que nous voulons faire et l'accepter. Je sais que c'est un procès qui va prendre de temps. Par exemple, partager des voitures, c'est pas évident. Mais moi, je dis toujours, s'il y a 20 ans, quelqu'un aurait dit, je vais commencer une boîte qui te donne la possibilité de louer ta maison à n'importe qui, tu aurais dit, c'est fou. Et maintenant, Airbnb, c'est la chose la plus normale au monde. Donc, pourquoi pas partager une voiture? Donc, j'espère que le concept va être de plus en plus accepté et apprécié. Ça, c'est un peu mon rêve et je n'abandonne jamais.
Je suis convaincu, tu vois, que tout ce que tu as pu dire, ça a fait réagir beaucoup de gens en positif. Je vais aussi avoir des réactions non, c'est pas possible, la passion va mourir. Mais c'est tant mieux, en fait, parce que
c'est
comme ça que tu mets la première graine de réflexion. Je parle à moi-même en disant ça, mais je suis convaincu effectivement que tout ce que tu dis et tout ce que ta vision, c'est dans le sens de l'histoire, c'est une évidence. Moi je vois pas comment ça peut être autrement. Après, je pense qu'il y a des arbitrages à faire entre tout ça, en fait, dans tout ce qu'on a pu dire, entre la passion,
ouais,
l'usage,
ouais,
l'évolution de nos centres-villes qui font effectivement boucher, on voit juste à côté.
Ouais.
C'est dans le sens de l'histoire et je trouve ça vachement intéressant, la vision que t'en as et tous les... Enfin, j'ai l'impression que c'est plus tu avances, plus tu vis des expériences, des événements nouveaux.
Oui.
Plus tu vas essayer de changer ta vision, enfin de la faire évoluer, en fait.
Je crois. Et regardez, je sais très bien si tu vas contre le courant, Tu fais des amis, mais tu fais aussi des ennemis, et ça fait partie de
mon histoire. Tu dois en avoir un petit peu, là.
Oui, et j'en ai fait pas mal, et je n'aime pas, parce que c'est pas mon intention, mais c'est inévitable, quoi. Mais ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du trajet.
Tu parles de révolution, il n'y aura pas de révolution sans...
Exactement.
Sans un petit peu de, pas de casse, mais de chafouinage, on va dire.
Exactement, oui.
En tout cas, merci beaucoup, Alain, pour ce moment.
Merci à toi.
C'était super, et j'espère que effectivement ça va faire réagir le plus de monde possible.
J'espère
et
aussi.
Que ça ouvrira le débat.
J'espère, merci beaucoup Yann.
À bientôt.
À bientôt, merci.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast ou un avis sur Spotify, ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Loyola 128 qui écrit en titrant une référence. Un podcast de grande qualité animé par un passionné intelligent et cultivé qui nous propose une grande diversité de rencontres avec des légendes du sport automobile, des acteurs de l'industrie, des collectionneurs ou encore de grands youtubeurs automobiles. Merci beaucoup Loyola, je suis ravi que la diversité de ce contenu te plaise. Je pense que tu vas être encore plus surpris par la suite de toute la diversité qu'on va amener parce qu'on va aller encore plus loin dans l'idée, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Pour plus de contenu exclusif sur les coulisses du podcast, suivez-nous sur Instagram, @dansLaBoîteAGants. Cet épisode est aussi à retrouver en version filmée sur YouTube, alors foncez vous abonner à la chaîne YouTube Dans la Boîte à Gants et sur votre plateforme de podcast favorite. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.